Bonsoir, des millions de joueurs, des milliards d'euros de mise, les Français jouent, on l'a vu d'ailleurs en 2017 avec une belle année pour la Française des Jeux, le PMU qui renoue avec la croissance et puis la bonne santé des paris en ligne et paris sportifs notamment. Alors ce nouveau millésime justement qui démarre, comment les grands acteurs du secteur vont devoir trouver la martingale pour continuer d'attirer? Comment innover avec des jeux plus simples, plus digitaux? Comment rendre les courses de chevaux peut-être plus fun, justement? Il va falloir jouer gagnant, oui, d'autant eh bien, que cette nouvelle année est une année de Coupe du Monde de football, que la FDJ pourrait être privatisée. Alors, 2018, est-ce l'année des gros paris dans le jeu? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les décodeurs de l'écho avec nos experts, nos acteurs, nos spécialistes. Il y a Alain Resplandy, Bernard, PDG par intérim du PMU, Bertrand Bodichon, président de l'agence de médias Media Plus, la filiale française de ce groupe allemand indépendant, Emmanuel Le Chip, toujours gagnant, éditorialiste économique à BFM Business. Oui, je mise sur lui en permanence et je gagne. Vincent Chaudel, expert sport associé du cabinet Wavestone, cabinet qui conseille les entreprises, et notre numéro complémentaire, Frédéric Simotel. Oh, on peut gagner avec le complémentaire aussi, hein. Éditorialiste high-tech à BFM Business. Alors, c'est vrai, un engouement pour les paris en ligne en 2017, au PMU, une hausse des enjeux de 2%, renoue avec la croissance avec presque 10 milliards d'euros. Chez le concurrent, la Française des Jeux, près de 6% de ventes en plus, 15 milliards d'euros, principalement grâce au grattage et puis un retour des jeux de tirage. Emmanuel Le Chypre, les Français, ils aiment jouer, hein, toujours, hein, bien sûr.
Oui, les Français, ils aiment jouer, ils sont de plus en plus à jouer. Je crois qu'il y a presque 6 Français sur 10 qui jouent de temps en temps. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que, le nombre de Français qui jouent augmente, mais dans ce nombre de Français qui jouent, le nombre de ceux qui jouent beaucoup augmente plus que le nombre de joueurs totaux. Donc il y a quand même une espèce de fidélisation qui se fait et qui est sans doute liée à la diversification de l'offre, ce qui fait que il y a quand même sans doute des gens qui maintenant jouent à plus de jeux, même si on peut être frappé aussi par la segmentation assez sociologique en fait par type de jeu, c'est-à-dire qu'on voit bien que les jeux de grattage c'est plutôt les femmes, que les courses de chevaux c'est plutôt les hommes des catégories socio-professionnelles moyennes, et que les paris sportifs c'est plutôt les étudiants, que le poker et le casino c'est plutôt les cadres et les chefs d'entreprise. Mais en revanche, on peut pas dire que les Français jouent énormément par rapport à leurs voisins des autres grands pays.
C'est-à-dire, Emmanuel,
vous avez des pays où on joue beaucoup plus. Alors là, j'ai sur des chiffres qui sont pas forcément très récents, mais c'est toujours le lot des comparaisons internationales. Mais par exemple, il y a l'Australie où on joue énormément, hein, on joue presque 900 dollars par an. Vous avez des pays comme le Canada, la Finlande, où vous êtes plutôt autour de 400. Vous avez l'Irlande, l'Italie, Hong Kong, les États-Unis, vous êtes plutôt à 300. Et la France, on est à moins de 200.
Donc, moins de 200.
Vous voyez, si vous prenez juste l'Europe sur tout ce qui est vraiment uniquement loterie, paris sportif, bah, c'est pareil. Les Français, ils dépensent pas énormément au regard des Grecs, hein, par exemple, qui jouent beaucoup sur les paris sportifs, ou bien les Italiens, les Finlandais, les Autrichiens, les Espagnols. Donc oui, il y a beaucoup de Français qui jouent, mais les Français ne sont pas de loin les plus joueurs.
On joue davantage, peut-être, je ne sais pas, on joue différemment peut-être. Voilà, il y a une diversité de l'offre, Vincent Chaudel.
Oui, c'est le fait que on ne joue peut-être pas assez par rapport à nos voisins, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du marché. Oui, je pense que ce qui peut expliquer en partie ce décalage, c'est l'arrivée tardive des paris sportifs, notamment, et les paris en ligne, qui sont arrivés en 2010, et on l'évoquait avant de rentrer sur le plateau. Ça n'a pas été la meilleure année de Coupe du Monde pour la France.
Du Sud, peut-être.
On est resté dans le bus avec quelques paris, j'imagine. 2016 a été une bonne année. 2018, on peut espérer que ça sera encore une très belle année, y compris pour les paris.
Alors, tiens, Alain Resplandy, Bernard, PDG du PMU. Je vous dis PDG du PMU, vous me direz tout à l'heure pourquoi, combien de temps vous allez rester par intérim. On est à un tournant, quelque part, voilà, 2017, l'année du retour de la croissance du PMU. Puis 2018, il va se passer des choses.
Il va se passer des choses. Il s'est passé beaucoup de choses en 2017, hein, parce que pour retourner, il a fallu beaucoup travailler, mais il y a beaucoup d'innovation digitale. Et puis 2018, chaque année paire, c'est une année de recrutement de nouveaux clients. Et il faut les attirer sur le mobile. Et donc la Coupe du Monde va être l'année où on va se battre tous pour attirer des nouveaux clients, ceux qui seront les parieurs de demain. Donc ouais, grosse bataille sur le recrutement.
On parle des paris sportifs, il faudra quand même parler des courses de chevaux. Hein. Est-ce que c'est toujours très tendance? Frédéric Simotel.
Oui, parce que ce que j'allais dire, on est dans cette tendance du mobile. Hein. On utilise tous notre mobile, on l'utilise de plus en plus. Et je pense que là où on va voir les Français jouer davantage, c'est qu'ils jouent déjà beaucoup. Les Français jouent beaucoup avec ces jeux sans enjeu, entre guillemets, c'est Candy Crush, ces petits jeux, c'est Clash Royale. Mais justement, ça forme un peu, ça sensibilise au jeu. Et on va y venir.
Il y a une corrélation entre l'engouement pour des Candy Crush et puis finalement, après, on va jouer.
Et quand des sociétés comme le PMU, comme la FDJ vont commencer à avoir des jeux un peu plus, alors pas grand public, mais qui vont ressembler à ces jeux-là, ben voilà, ça va attirer les joueurs. Et puis là, les gains seront autres que juste avancer de niveau. Et là, je pense qu'on va commencer à remonter la pente par rapport à des Australiens, peut-être pas, mais par rapport à d'autres.
Bertrand Bodichon, Média Plus.
Hein. Ben, ce qui est absolument intéressant, c'est d'un point de vue de communicant, c'est deux choses. C'est que d'abord, en 2010, c'était une martingale et ils sont partis à 10 et à la fin, il en reste 6 ans après, il n'en reste que 3 ou 4. Et c'est ceux qui ont investi dans leur marque ou qui en avaient déjà une très très installée qui reste à la fin de l'histoire.
Betclic, Winamax, PMU, FDJ, bien sûr.
Exactement. Moi, personnellement, je me suis occupé de Bwin, du lancement de Bwin à l'époque, avec un débat qu'on avait à l'époque d'essayer de les convaincre de construire la marque. Parce que c'était quelque chose de convaincre les Français de laisser un numéro de carte bleue, d'ouvrir un compte. En plus, la réglementation française sur les ouvertures de compte était à l'époque très très compliquée. Donc ça faisait peur aux gens. Donc il a fallu leur expliquer l'intérêt de construire une marque avant de compter immédiatement la rentabilité immédiate. À la fin de l'histoire, il n'y a que ceux qui ont investi vraiment sur leur marque, dont Winamax et les acteurs installés, qui restent à se partager un marché qui a grossi, mais pas autant qu'on pouvait l'espérer en 2010. Et en partie à cause de la réglementation française qui est en train d'ailleurs de s'élargir, notamment sur le poker. Le deuxième phénomène que je constate, c'est ça a permis à plein de nouveaux joueurs, grâce à la digitalisation, grâce à la digitalisation de l'expérience, et notamment avec ce que vous faites au PMU pour digitaliser l'expérience course, ça a permis de faire venir toute une nouvelle frange de population qui s'intéressait pas du tout ni aux jeux de loterie, ni aux jeux hippiques. Et ça a permis considérablement grâce à Internet de rajeunir l'âge moyen, et donc vous avez construit l'avenir de vos marques en recrutant des gens qui grâce à Internet commencent à rentrer petit à petit dans l'expérience du jeu du pari hippique, et puis petit à petit vont finir par aller sur un hippodrome, voire dans un PMU, et vont finir par être mordus comme leur père ou leur grand-père.
Bah alors ça, c'est peut-être pas encore complètement gagné, Alain Resplandit, Bernard, parce que les courses de chevaux quand même, bon alors vous sortez quand même du trou quelque part en 2017 avec la croissance qui revient. C'est plus forcément tendance, les courses de chevaux, c'est plus aussi jeune que ça en quelques années. On va quand même le rappeler, le PMU a perdu plus d'un milliard d'euros d'enjeux. À cause de quoi? La concurrence nouvelle aussi, des paris dont nous parlait Bertrand tout de suite?
Il y a une concurrence du pari sportif, ouais. C'est pas que des pertes de clients, ce sont aussi des clients qui jouaient avant 100 euros sur le pari hippique, vont jouer 80 au pari hippique et 20 au pari sportif. Donc il y a eu la cannibalisation du pari sportif. Mais pour moi, c'est tendance et on revient dans la bataille de manière forte avec l'expérience dans les bars, mais en intéressant aussi au spectacle qu'il y a dessous, le spectacle sportif des courses. Ouais. Parce qu'il y en aura d'intérêt au pari que s'il y a un intérêt pour le sport en dessous. Le pari sportif, c'est d'abord le pari sur le football, un tennis, rugby, ouais. C'est ce grand sport médiatique. Donc il faut que les courses hippiques redeviennent un sport médiatique.
Comment renouveler justement ce marketing des courses? Comment faire en sorte qu'on ait envie d'aller sur un hippodrome quelque part et de considérer que les courses, c'est un sport comme un autre? Racontez-nous ce qui s'est passé justement au Grand Prix d'Amérique. C'était donc dimanche, hein, donc l'une des grandes courses de trop, hein, donc eh bien au monde, hein, justement. Vous avez mis en place ce qu'on appelle l'Epic Tracking. Qu'est-ce que c'était?
Là, c'est un système de tracking des chevaux. On avait fait, les sociétés de course avaient fait un appel d'offres mondial pour avoir le système de tracking le plus précis au monde. Et donc, ça a été mis en place avec une application qui permet de voir les chevaux pendant le live, mais qui permet aussi un live ou un replay 3D où vous pouvez suivre la course d'en haut, sur le côté à la place d'un des drivers. Donc vous pouvez l'avoir être dans la course pendant 3 minutes.
On se passe à la place du driver.
Ouais. Exactement, ouais. Et vous vivez ça en 3 minutes à 56 km/h. Dans la dernière ligne droite.
Et ça, cette expérience, elle va être renouvelée, prolongée donc sur d'autres courses. Alors du galop peut-être, je ne sais pas aussi.
Bien sûr, du galop. Et on collecte énormément de données grâce à ça. Ouais. Plus de 50 données à chaque fois qu'on fait une collecte et on en fait 10 par seconde. Et avec toutes ces données collectées, on peut imaginer des tas de nouveaux jeux de demain. L'accélération relative, le nombre de foulées. On peut imaginer plein de jeux grâce aux données collectées.
Emmanuel Lechypre. Hein.
Non mais c'est vrai que les course, il y avait un côté un peu ésotérique, un peu hermétique. Hein. D'abord parce que, alors en même temps, c'est ce qui fait l'intérêt, c'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement dans un jeu de hasard. Vous êtes dans un jeu où vous avez une expertise qui est récompensée quelque part, et c'est toujours le plaisir d'avoir raison quand vous gagnez votre pari. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait le côté aussi accès, aller au café, etc. Donc on comprend que c'est plutôt un pari de communauté en fait. Et c'est vrai que par ailleurs, vous avez dans le spectacle live des contraintes physiques qui font que le spectacle n'est pas toujours à la hauteur. Honnêtement, quand vous assistez au Grand Prix de l'Arc de Triomphe depuis les tribunes, vous voyez pas le départ, vous voyez pas le milieu de course.
Vous gênez pas les chapeaux.
Vous voyez les 150 derniers mètres et vous avez passé l'après-midi pour 3 minutes de course, quoi. Vous voyez, donc c'est voilà. Et donc je trouve qu'effectivement le défi par rapport à tout ce qui peut être amené au-delà même, enfin de l'expérience qu'on peut vivre, parce que c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que aller voir des courses, voir des chevaux, c'est beau les chevaux. Il y a une ambiance, il y a tout ça. Je trouve que c'est une immersion qui est totalement fascinante. Mais on était privé avant un peu de ça. C'est-à-dire que le cheval, il était sur papier. Vous aviez des noms tous plus rigolos les uns que les autres. Vous aviez les cotes, les machins. Et c'était abstrait même là. Je trouve que l'expérience sportive vivante est vraiment. Je trouve qu'il y a un gros défi et c'est passionnant.
Ouais, Vincent Chaudel, je disais les courses, c'est un sport comme les autres. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est une théâtralisation des courses. Comment moderniser justement cette expérience client? On parle tout le temps de l'expérience client, quel que soit l'endroit, justement, et dans les hippodromes. Comment on fait?
Justement, vous avez mis le doigt sur quelque chose. C'est un sport comme un autre, et le sujet des sports comme les autres, c'est de travailler sur l'expérience de la fan expérience. Donc là, c'était le sujet. Il faut surtout pas que celui qui rentre dans l'hippodrome soit celui qui voit le moins bien. Comme celui qui va au stade, faudrait surtout pas que ce soit celui qui ait le moins d'informations, etc. Donc, les stades connectés, c'est un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle du figital. Une expérience physique dans l'enceinte et en même temps, de l'expérience enrichie par du digital parce que le smartphone nous accompagne partout. On a l'habitude de cela et il ne faut surtout pas que aller dans l'hippodrome soit finalement l'endroit où on serait le moins bien servi.
Il nous faut quoi? Du spectacle, du rêve, des belles histoires, du aussi. Wifi, de l'hospitalité, manger, comme on a à la U Arena, comme on a à l'Accor Hotel Bercy. C'est ça qu'il faut développer.
Bien sûr, il y aura une superbe opportunité au galop avec le nouveau Longchamp qui va ouvrir cette année,
qui va être rénové, un écrin fantastique
pour le galop. Et donc là, on a les très belles compétitions. Le prix de l'Arc de Triomphe l'année dernière a été voté la meilleure course au monde. D'un point de vue sportif, le Prix d'Amérique est la finale pour les trotteurs. Donc on a les plus beaux événements sportifs, on commence à avoir les plus beaux écrins. Donc il y a tous les ingrédients et il y a des belles histoires humaines derrière ces compétitions.
Il faut nous faire rêver aussi avec des gains attractifs. C'est vrai que la Française des Jeux régulièrement nous vante le super tirage de la mort, de l'euro million à 150 millions, etc. Bon, très bien. Est-ce que vous êtes capable de nous apporter une telle offre ou pas, vous, les à la fois PMU et société de course, puisque
oui, alors c'est pas sur le grand gain, c'est le fait que vous gagnez fréquemment. Il y a 500 000 de gagnants tous les jours au PMU, et donc vous avez l'occasion de gagner gros sur le quintet, là, le plus gros, ou de gagner très très fréquemment sur chaque course avec un pari qui est simple. C'est les 15 chevaux au départ. Faut trouver le premier. Ouais. Rien de plus simple que le pari pique.
Combien de millionnaires, grâce à vous, avec le PMU en 2007? La FDJ a reversé 10 milliards d'euros aux joueurs. Parmi eux, 197 sont devenus millionnaires. Je n'en fais pas partie, je le regrette.
Alors, j'ai pas le chiffre du nombre de millionnaires. On redistribue, nous, 75% des mises. Ouais. Et donc, des 9 milliards 900 que vous avez cités tout à l'heure.
La distribution statistique est pas du tout la même, hein.
Non, pas du tout. Il y a beaucoup de plus de gains importants, mais fréquents. On gagne fréquemment.
Beaucoup d'épreuves aussi, alors qu'ils sont peut-être pas toujours très lisibles, hein, les épreuves. Ça aussi, il faut peut-être simplifier, rendre un peu lisible toutes les épreuves qu'il y a tous les jours, tous les champs de course.
Et c'est pour ça, là, vous parliez d'Epic Tracking, mais derrière, il y a les Epic Series. C'est le championnat, les 14 plus belles courses.
Le top 14 du...
Le top 14 des courses, la Ligue des champions, les plus belles courses. Donc, si vous commencez, commencez par ces 14 plus belles courses.
Oh, très bien. Bertrand Bodichon, Média Plus, et Frédéric Simotel.
Ouais, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le travail qu'a fait le monde hippique, c'est qu'ils ont très, très bien capitalisé sur le fait qu'ils ont un spectacle. Quand vous regardez le tirage du loto, il y a rien de plus chiant que de regarder le tirage du loto. Le seul intérêt, c'est de savoir combien d'argent on va gagner à la fin. Là, il y a plein d'autres intérêts. Et ce que je trouve extrêmement intéressant avec le développement de l'Epic Tracking, et la médiatisation des Epic Series, parce qu'il y a eu toute une campagne de pub avec la voix d'ailleurs de mon idole, le Joey Starr, pour événementialiser ça exactement comme si c'était le top 14 ou la première ligue. Ce qui est intéressant, c'est que avec tout ce qui est en train de se développer in situ à l'intérieur de, avec toutes les datas qui vont être collectées, et Dieu sait si les jeunes sont extrêmement férus de data, pour essayer de trouver la clé secrète qui est autre chose que simplement de trouver le cheval qui va gagner. Il y a effectivement une façon pour répondre à votre question, Fabrice. Il y a toute une série de jeux qui vont pouvoir se lancer à partir de ces datas là, qui vont être autre chose que de simplement savoir qui va gagner la course. Ça peut être la meilleure accélération, ça peut être la plus grosse lose, ou celui qui s'est fait le plus rattraper par les autres. Ça peut être, on peut imaginer tout un tas de paris qui vont là pas forcément attirer les purs players du pari, voilà, du pari ça, traditionnel, mais qui vont attirer des jeunes qui vont aller fouiller dans de la data avec ça. Ouais, ils adorent ça.
L'homme du numérique, Frédéric Simotel.
Fouiller dans la data, puis jouer avec les images aussi, on l'a dit, la réalité virtuelle avec la 3D. Et aujourd'hui, c'est vrai que notamment les jeunes sont habitués à une réalité immersive, quoi. Ils sont dans leurs jeux vidéo, ils sont immergés dans le domaine. Alors après, est-ce qu'ils pourront agir et comment les impliquer aussi dans le jeu? Ça peut être aussi des pistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui des caméras embarquées, la réalité augmentée, voilà, tout ça peut leur faire vivre d'une autre façon les courses, s'intéresser un peu comme dans les jeux vidéo. Vous savez, vous avez des jeunes qui jouent au jeu FIFA sans vraiment être passionnés par le foot, par contre ils aiment bien ça, ils connaissent des joueurs, ils connaissent des équipes. Bien là, c'est peut-être ça aussi le moyen de stariser un peu des chevaux, stariser des jockeys, des drivers, et donc tout ça va amener, encore une fois, on n'est pas en dire aux jeunes, allez, il faut tous aller jouer, mais voilà, c'est un nouveau moyen de se divertir. Et la technologie peut jouer énormément dans le domaine, avec effectivement ensuite on peut travailler sur les données, mais là il y a un vrai travail à faire, et voire même, je disais, pourquoi pas impliquer, c'est-à-dire à un moment on va voir des joueurs qui votent davantage pour un cheval, pourquoi ce cheval ne pas l'avantager pendant la course, ou alors en retenir un, enfin là il y a plein de choses à faire. Non, mais
c'est le mécanisme qui existe dans la Formule E, au niveau de l'automobile, où en fait les fans peuvent donner un coup de boost à la voiture.
Ah, ça on peut, d'accord.
Ça, ça a été imaginé comme cela.
Comme on peut parier également, donc en direct quelque part, ce qu'on appelle le live betting dans les cafés, bars, pour parier sur un match de foot, peut-être sur une course de show. Vous y seriez favorable, vous, Alain Resplandy Bernard, ou pas?
Alors,
PDG du PMU.
Moi, je crois pas en 3 minutes, en pari mutuel, en 3 minutes de course, le pari sera pas très intéressant, il y aura pas beaucoup de paris, donc c'est pas très intéressant en live betting pour les courses de chevaux.
En même temps, vous voulez peut-être pas laisser ça aux buralistes, donc à la FDJ quelque part aussi.
Alors c'est pas, de toute façon la FDJ ne fait pas de paris hippiques, donc c'est pas une concurrence. Après ça, sur internet, d'autres pensent différemment de moi, mais ça c'est pas un problème. Chacun va jouer son jeu dans la compétition, donc qu'il le tente.
Bertrand, Média Plus, Bertrand Bodichon.
Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que effectivement, comme le disait Manuel tout à l'heure, les Français sont très joueurs, moins que dans d'autres pays, mais on assiste au-delà des jeux à des nouvelles formes de commercialisation de produits, de biens ou de services, de loisirs, qui vont se lancer, qui sont en train de se lancer en France, et on est en retard là aussi, mais ça existe par exemple en Hollande avec un site qui s'appelle Vavabid, où les gens achètent aux enchères un package de loisirs ou des produits de consommation courante sans prix de réserve. Et donc ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que cet engouement pour le pari est en train de gagner des univers entiers de la consommation.
Comment ça fonctionne par exemple aux Pays-Bas?
Aux Pays-Bas, vous allez sur le site et puis vous avez des enchères qui sont lancées à peu près tous les quarts d'heure. Vous avez un quart d'heure pour être le plus enchérissant sur un package pour aller au parc Astérix, etc. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs une gageure financière assez intéressante. Et si vous êtes le le plus enchérisseur. Et donc, il y a bien un côté de gamification de votre consommation. Vous pouvez aller au parc Astérix avec toute votre famille pour 45 euros si personne n'a enchéri en face de vous, puisqu'il n'y a pas d'enchère de réserve, à la différence de eBay. Ces produits-là vont arriver au-delà du pari, parce qu'on est en train de parier même quand on consomme. Et je trouve que c'est en train de lancer une mouvance très intéressante.
Comment on innove justement en termes de produits, de jeux à la Resplendie Bernard? Vous, par exemple, vous avez lancé en 2017 des paris par SMS, donc des jeux beaucoup plus simples. Hein. Vous avez lancé le simple jackpot, un pari à 2 euros, Ipigo, pas PMU, c'était une interface de jeu en ligne avec deux jeux très aisés pour sur le mobile. Vous allez continuer, et ça vous inspire ce que vous dit Bertrand Bodichon?
Tout à fait. Il faut animer le marché, à la fois en rendant des services, c'est-à-dire des interfaces très simples. Le pari par SMS, c'est très simple et ça correspond à un besoin. Mmh. Et du coup, en un an, on fait 90 millions d'euros sur le pari par SMS. Et ce qui marche aussi très bien, c'est le jeu dans le jeu. Le simple jackpot, c'est vous avez d'abord une roulette qui tourne et qui va vous permettre de multiplier votre gain dans votre pari hippique jusqu'à x 1000. C'est du jeu dans le jeu. Ou ce qui marche très bien, c'est quand vous allez prendre du pari sportif et vous faites une compétition entre parieurs. Mmh. Et vous donnez un bonus de plus à celui qui, sur 10 jours, va avoir le meilleur taux de gain. Mmh, donc le jeu dans le jeu, ça marche très fort.
Frédéric.
Et puis avec les data, on va pouvoir travailler beaucoup plus sur la personnalisation. Parce que c'était, j'en parlais avec l'un de vos prédécesseurs au PMU il y a quelques années, on avait un peu ce même problème dans la presse. C'est-à-dire les gens venaient acheter leur journal dans un magasin de presse ou venaient parier au PMU, étaient très fidèles, mais on les connaissait pas. Et finalement, grâce à Internet, grâce au fait que les gens viennent jouer en ligne, on va commencer à mieux connaître les gens, mieux connaître la façon dont ils jouent, personnaliser, c'est-à-dire savoir qu'une personne vient plutôt jouer le jeudi, le dimanche, ça c'est classique, mais est-ce qu'il préfère jouer le soir? Est-ce qu'il préfère jouer en famille? Est-ce qu'il préfère jouer sur des courses où il y a des chevaux très connus? Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être aussi personnalisées à travers les data, et on va vous proposer l'offre. Il y en a un qui veut à tout prix du galop, il veut un type de jeu, et bien on va pouvoir mieux personnaliser ça à travers les data. Et ça aussi, c'est nouveau, c'est ce qu'apporte le digital.
Vincent Chaudel, associé chez Webstone.
Alors, ça ouvre le champ des possibles énormément, le digital. Ça suppose aussi qu'il y ait de l'investissement. Ça ouvre le champ des possibles à l'international, parce que du coup, avec le digital, il y a, à part des contraintes réglementaires, il n'y a plus de limites. Donc, une course comme la France a la chance d'avoir des courses mondialement connues, ça veut dire que derrière, le potentiel, il est colossal. Pour autant, il va falloir investir. On parlait tout à l'heure, je parlais des stades connectés, donc des hippodromes connectés. Il va falloir investir sur la qualité de l'accueil, parce que on l'a vu dans d'autres sports, dans le football, dans le basket, dans le rugby. Si dans le stade il n'y a pas grand monde, on n'a pas l'impression de vivre un moment extraordinaire. Donc le Grand Prix d'Amérique,
le Prix de Triomphe,
toutes ces courses-là, elles vont avoir un marché mondial. Si et seulement si, c'est the place to be. Donc il va falloir créer l'écran qui permet d'accueillir cela. Ça va supposer quelques investissements.
Alors comment on fait, Alain Resplendie Bernard? Vous déjà, vous avez sauvé les meubles en 2017 grâce à l'international, avec une progression de 10% justement à l'étranger.
Oui, quand vous dites elles vont avoir, non, elles ont aujourd'hui. On fait plus d'1,140 milliard d'enjeux pris à l'étranger sur les courses françaises. Le PMU, c'est le troisième opérateur mondial. Et donc aujourd'hui, il y a 50 pays qui parie sur les courses françaises en temps réel avec les parieurs français. Donc ça, c'est l'axe de développement très fort. Il y a encore un continent complet. On vient de lancer deux pays en Afrique, et notamment à Madagascar, où là, on est un pays qui est très mobile, et on a fait une innovation avec Orange sur du pari en mobile money, direct. Donc on a tout un continent.
Ils sont très en avance
là-dessus en Afrique. Ouais. On a toute l'Asie. On est très heureux de voir que le président de la République, quand il veut symboliser l'excellence française, il choisit un cheval à offrir à son homologue.
Xi Jinping,
et alors derrière, on peut convaincre les Chinois qu'il y a une très belle filière à développer grâce au pari hippique.
Et vous êtes en Chine? Vous êtes déjà développé en Chine? Vous allez vous installer en Chine?
Alors pour l'instant, l'activité de pari hippique n'est pas encore autorisée. Bien. Mais notre but, c'est vraiment un jour d'ouvrir ce marché qui sera un bel Eldorado.
Sûrement, oui, 1,5 milliard d'habitants. Bertrand Bodichon.
Il y a quelque chose qui manque aussi, parce que on dit que c'est un spectacle, on le compare à d'autres sports. Il manque quand même quelque chose, c'est la retransmission sur des grandes chaînes de ce programme et de ce contenu et de ce spectacle qui est en train de devenir les courses. C'est quand même, aujourd'hui, pour aller voir une course, c'est des chaînes, encore une fois, réservées aux spécialistes d'avant. Et il manque, à mon avis, un programme, au même titre que Canal+ retransmet la Formule 1 en tirant parti de toutes les expériences digitales qui sont rendues possibles désormais avec le digital. Et il y a un moment, si on a envie de toucher cette cible en tant que publicitaire qui est intéressée par ces programmes-là, une cible plus jeune, plus connectée, etc., c'est pas vraiment sur Equidia qu'on va aller les chercher.
Bon, juste, il y a un événement aussi qui va être largement télévisé à partir du mois de juin et qui va drainer des milliards de téléspectateurs. C'est le Mondial en Russie, le Mondial 2018. Comment chacun va profiter, chacun des acteurs du Paris sportif va profiter de cet événement mondial? On est dans une année importante. Allez, vous, le PMU, Alain Resplandy, Bernard, qu'est-ce que vous allez faire?
Je ne vais certainement pas vous le dire là, parce qu'on est dans une compétition. Mais en revanche, on sait que c'est là qu'on va recruter des nouveaux. On va leur faire envie. Et moi, mon but, il est simple, c'est de recruter dans le Paris sportif. Mais après, de leur faire découvrir tous mes jeux, et notamment le Paris Hippique. Et donc, c'est mon métier, faire vivre les courses. Donc, je vais aller chercher les fans de foot.
C'est automatique, franchement, vraiment, un gars qui va parier sur un match du Mondial, vous pensez que derrière, il va avoir envie de jouer sur...
C'est un joueur.
Ouais. C'est un joueur. Ah bon, bah d'accord.
Très bien, Bertrand. Les joueurs, ils ont deux caractéristiques. Ils veulent gagner de l'argent, c'est du jeu d'argent. Mais ils veulent surtout, avant tout, montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Bon. Et ça, c'est vraiment Paris sportif comme en Paris Hippique.
Bon, c'est bien dit. Vincent Chaudel.
Oui, mais PMU, même si vous voulez pas tout nous dévoiler ce soir, au moins on sait que vous accompagnez l'équipe de France.
Exactement.
Et donc on peut se douter que autour du Mondial, vous pourriez avoir quelques idées créatives autour de cela.
C'est possible.
J'imagine. Juste sur le sponsoring sportif duquel vous étiez un petit peu allégé pour faire quelques économies. Vous allez revenir ou pas?
On est présent. Nous, on a un partenariat fantastique avec la Fédération Française de Football parce que c'est l'équipe de France.
Bien.
Énorme impact. Et puis c'est la Coupe de France. Et ça, c'est autant d'histoire locale. À chaque fois qu'on a un petit pousset, son siège de supporter, il est dans un bar PMU. Et donc, on a plein d'histoires à raconter.
Vous êtes à la maison. Emmanuel Le Chypre.
Non, ce qui va être intéressant, justement, sur la Coupe du Monde de football, c'est de voir, parce que là, pour le coup, la Coupe du Monde de football, c'est un rendez-vous régulier, et c'est de voir tous les 4 ans les sauts, à la fois technologiques, en matière d'offres, qui sont opérés. Et là, moi, effectivement, là, le monde d'il y a 4 ans, en matière de disponibilité des data, etc., c'est plus du tout le monde d'aujourd'hui. Et je crois qu'on va avoir un saut en matière d'offres, de possibilités de paris, etc., qui va être sans précédent par rapport aux autres Coupes du Monde. Avec, comme a dit Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir des données sur tout et n'importe quoi, fait qu'on va pouvoir parier sur peut-être le joueur qui a fait le plus de kilomètres, etc.
Le e-sport aussi, c'est un vecteur important, le PSG qui a une équipe de e-sport. Frédéric Simoteur.
Oui, le e-sport, ça y est, on est en train de découvrir, même on en parle aux Jeux Olympiques, d'avoir ce e-sport. Donc on le rappelle, c'est des épreuves de jeux vidéo, mais qui sont suivies par un public. Comme vous allez regarder à la télévision un match de foot, vous allez regarder une épreuve de jeux vidéo. Et là, c'est en train vraiment de décoller. Et on a des équipes, on a des... On peut remplir des stades autour du e-sport.
Un mot, Bertrand Bodichon, puis on reviendra dans un instant avec nos décodeurs de l'écho.
La Coupe du Monde, c'est évidemment un enjeu publicitaire extrêmement intéressant. C'est aussi un enjeu pour le recrutement pour le Paris sportif, pour le recrutement de nouveaux clients qui vont arriver à ces marques à cette occasion-là, grâce effectivement à une expérience renouvelée. Ce qui est intéressant, à mon avis, cette année pour votre business, c'est que c'est la première Coupe du Monde dont je me souvienne où il n'y a pas un favori. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, les jeux sont vachement plus ouverts.
Le tirage au sort qui a eu lieu il y a 2 mois, tout le monde a dit, la France, ça y est, on les voit déjà.
La France peut très bien finir, mais il n'y a pas un grand favori qui écrabouille tous les autres, comme ça a été le cas pour l'Allemagne aux deux Coupes du Monde d'avant, pour l'Angleterre avant, pour l'Espagne, etc. Donc les jeux sont beaucoup plus ouverts. Donc le jeu du pari, à mon avis, les cotes, le système des cotes va faire que les gains potentiels vont être plus intéressants parce que il y a un espèce de nivellement et la France en plus peut effectivement s'en sortir bien.
Bon, allez, 2018.
On peut parier que 80% ce sera Allemagne, Brésil ou
c'est Espagne.
Non, bon, c'est pas, allez.
Je suis d'accord. On va pas commencer à s'avancer là. On est que fin janvier. Bon, 2018, l'année des gros paris dans le jeu. On continue dans un instant. Puis il y aura aussi un autre événement aussi. La probable, possible privatisation de la Française des Jeux. On verra comment ça peut bouleverser tout le secteur. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, 2018, l'année des gros paris dans le jeu. Oui, c'est la question qu'on se pose ce soir. Il va se passer beaucoup de choses et on voit comment les grands acteurs, eh bien, déjà, ont commencé à se mobiliser. On est avec le PDG du PMU, Alain Resplandy-Bernard, en 2017. Le PMU, d'ailleurs, qui a noué avec la croissance, avec les courses hippies. Mais on peut faire encore plus. Il nous le disait avec des tas de nouveaux jeux, justement, notamment grâce au digital. Il y a l'année de la Coupe du Monde. Et puis, un enjeu important aussi. Rien n'est encore confirmé, expliqué. C'est la possible privatisation de la Française des Jeux. À quelle hauteur? Je ne sais pas, évidemment. Quelle incidence ça aurait sur le secteur des Jeux, une privatisation de la Française des Jeux? Plus de 40% des Jeux d'argent en France, c'est la FDJ, le double du Paris Hippique. Vous, comment est-ce que vous préparez?
On ne sait pas d'abord ce qui va se passer. L'hypothèse qu'on a, c'est que si la Française des Jeux ouvre son capital, elle aura plus de moyens. Elle va être encore plus véloce sur le digital, à l'international où elle s'était pas beaucoup développée. Donc moi, je m'apprête juste à avoir un concurrent qui va plus vite. Donc je suis dans ma ligne et je vais aller plus vite. C'est la seule chose. Moi, ma seule préparation, c'est de pouvoir aller plus vite. Pour ça, il faut que j'investisse. On parlait beaucoup d'investissement dans le digital, dans l'expérience client.
Donc. Est-ce que vous avez assez de moyens? Est-ce que les sociétés qui contrôlent le PMU, le France Gallo et puis le TRO, et puis quelque part aussi peut-être un petit peu le ministère du budget, quelque part sont prêts à vous donner un petit peu plus de moyens ou pas?
Alors, ils nous ont suivis, notamment dans tout ce qui a été digitalisation des points de vente. Ça a été fait avec l'argent des sociétés de course. Aujourd'hui, moi, je suis un peu atypique. J'ai zéro dette. Ma structure, je suis un GIE, j'ai zéro dette. Donc c'est vrai que pour financer l'investissement et aller chercher, c'est un peu particulier. Et donc là, si je pouvais un peu desserrer cette contrainte, ça me permet dans mon couloir d'accélérer un peu.
Ouais, et la FDJ, c'est peut-être pas forcément complètement vos amis. Vous craignez justement cette accélération? Il est leader, il pourrait prendre encore plus de poids, c'est ça?
Moi, je le crains pas. Je pense qu'on a des atouts énormes. Et tout n'est pas exploité, loin s'en faut. Les courses ont un tel potentiel qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et notre présence dans les datas, parce que c'est vraiment intimement lié au Paris Hippique, nous donne un avantage pour ce qui va arriver en termes de jeux dans les années futures, que moi je trouve qu'au contraire, on a énormément d'atouts pour relancer le PMU en général et le Paris Hippique en particulier.
Ils avaient tenté une expérimentation il y a quelques mois, une expérimentation de Paris Hippique, qu'ils avaient mis en suspens la Française des Jeux. Alors pour combien de temps? Je ne sais pas, ça vous prend peut-être au-dessus de la tête. Bon, la FDJ, est-ce qu'elle n'est pas plus belle aux yeux des buralistes? Elle reverse quand même 5% des mises aux buralistes et vous, c'est
2%.
Voilà, justement. Bah alors, comment on fait?
On fait
pour lutter?
Nous, on investit avec les buralistes. On est vraiment dans un partenariat parce qu'il faut inventer. Moi, ce que je trouve très passionnant, c'est comment on invente le bar 2.0. Comment on rénove ce lieu de sociabilité qui est spécifique.
Il doit ressembler à quoi ce bar 2.0 à vos yeux dans l'idéal en 2018?
Il n'y en a pas un seul. Il y en aura plein selon des expériences. Les bars de e-sport sont pas les bars à ambiance musicale de demain. Donc il faut que les buralistes, les patrons de bars se prennent en main et que nous on les accompagne pour mettre une expérience de jeu dans des concepts qu'ils vont développer eux. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire avec eux. Et nous, on apporte notre technologie, notre digitalisation en soutien des bars.
Alors, un mot. Alors, Frédéric Simotel, Bertrand Bodichon, Emmanuel Chou. Allez, Fredo.
Juste pour parler des investissements, on parle de centaines de millions. La FDJ, en 2015, lors de la présentation du plan stratégique, c'est 500 millions d'investissements. Alors, la moitié dans tout ce qui est IT, informatique et tout ça, mais 180 millions donc dans la numérisation des points de vente, ce que vous faites aussi au PMU, dans les nouveaux jeux, les développeurs. C'est 500 millions. C'est pas quelques dizaines de millions d'euros.
Emmanuel Lechypre.
Non, mais je crois qu'il faut pas s'arrêter à ce qui est reversé. Vous reversez deux fois moins que la FDJ, mais pour un buraliste cafetier, en général, le client PMU, il est plus intéressant que le client FDJ, parce que votre client PMU, il vient, il passe du temps, il consomme.
Il va regarder
votre client FDJ, le lien entre le fait que il achète des produits de la FDJ et qu'il reste consommé est beaucoup moins important. Hein. Vous pouvez rentrer, acheter vos tickets, repartir.
Bien sûr.
Là, mais c'est lié au fait que il y a pas d'événementiel finalement autour du jeu FDJ. C'est-à-dire qu'en gros, vous venez, vous grattez, vous validez votre bulletin et puis and so what, quoi.
Alain Resplandy-Bernard et Bertrand Bodichon.
Ah, mais c'est tout à fait vrai et c'est vraiment ça qu'il faut accentuer. C'est que dans le lieu bar, il a envie de rester, il a envie de préparer. En fait, c'est un loisir où on reste, on s'engueule entre amis sur la prochaine course et en même temps, on consomme. Et donc, c'est ça le partenariat qu'on a avec les buralistes. Les
Bertrand Baudichon, à tête de Média Plus, agence Média, l'impact de la privatisation de la FDJ.
Bah, moi, je crois que je suis assez d'accord. Je crois que l'enjeu principal de cette privatisation, c'est de pouvoir amortir sur une géographie plus large que le strict hexagone, des investissements qui sont exponentiels et qu'il faut faire. Donc effectivement, la Française des Jeux, tout est dans son nom d'ailleurs, a du mal à s'internationaliser. Je pense que le sens premier de cette privatisation, c'est d'essayer d'aller chercher à amortir, et finalement tous les grands acteurs du digital ont exactement le même problème, c'est d'arriver à amortir sur une surface de consommation plus grande des investissements qui sont unitairement soutenable sur chacun des pays.
Juste.
Le PMU sera peut-être un jour dans ce genre de démarche si sa gouvernance lui permet.
Alors on parlera de la gouvernance dans un instant. Emmanuel Lechey.
Sachant que l'État sera deux fois gagnant.
Bah oui.
Il sera gagnant d'abord avec bêtement la recette de privatisation qui va effectuer. Et puis il sera gagnant parce qu'effectivement, n'oublions jamais que plus le chiffre d'affaires de la FDJ sera élevé.
Bah là, sur 15 milliards d'euros en 2017, l'État a gagné 3,3. Voilà,
exactement. Voilà. Plus les recettes de la FDJ seront fortes, plus les recettes fiscales liées au jeu seront fortes. Plus la FDJ aura les moyens d'investir et de développer son chiffre d'affaires, plus, là encore, l'État sera gagnant. Donc, c'est un bon pari pour l'État, sans mauvais jeu de mots, de privatiser en partie la FDJ.
Bravo, Manu. Vincent Chaudel, expert sport chez Webstone.
On parle de privatisation, mais il faut connaître le cadre de cette privatisation. Oui. À quelle hauteur? Je suis pas sûr que l'État perde la majorité complètement.
Absolument.
Je pense qu'il y a aussi
du capital.
Exactement, ce qui est pas tout à fait la
Est-ce
même
que ça
chose.
Peut donner le là, à votre avis, Vincent Chaudel, à un bouleversement du secteur? Est-ce que le gouvernement va se pencher sur le dossier?
Je
il y a un problème de fiscalité aussi.
Il y a un problème de fiscalité. Il y a
lourd de fiscalité sur les acteurs du jeu.
Il y a un problème aussi politique. C'est-à-dire que jusqu'ici, si on a été le pays en Europe, le pays majeur qui a été le plus, qui est arrivé au pari en ligne le plus tardivement, c'est parce qu'on a aussi un rapport en France à l'argent qui est particulier. Et donc, je suis pas sûr que on va donner un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi entre guillemets. Donc, privatisation, c'est pas une chose, mais dans quel cadre, avec quelle feuille de route?
Les règles, justement, des paris en ligne mis en place il y a 8 ans, en 2010, est-ce qu'elles pourraient bouger? Est-ce que le gouvernement pourrait en profiter pour aller revisiter un petit peu ce secteur? Retravailler la gouvernance? Tiens, ça dépend de qui? Les jeux, un peu l'intérieur pour les casinos, l'agriculture, vous, le budget aussi, vous. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Bercy également. Il faudrait pas une super Argel, un super gendarme quelque part des jeux pour en matière de gouvernance?
Alors c'est pas nous qui le disons, c'est le Parlement et la Cour des comptes qui ont dit qu'il fallait effectivement une régulation unique. C'est vrai que quand on doit agréer un même jeu chez trois autorités différentes qui peuvent dire des choses différentes, c'est pas forcément l'agilité maximale. Mais après ça,
vous souhaitez justement qu'on remette un peu d'équerre, on fasse une mise à niveau justement, profitant de cette privatisation de plus en moins grande ampleur de l'FDJ.
La compétition internationale va être de plus en plus forte. Les acteurs du jeu anglais se consolident. Donc on va avoir des mastodontes qui vont attaquer les marchés continentaux. Et donc face à ça, avoir une régulation qui doit rester forte, hein, mais unique, plus simple et qui va plus vite, ça serait...
Il faut éclaircir la réglementation.
Je pense.
Comme la gouvernance, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu handicapé par votre rôle historique, celui de soutenir la filière hippique, à qui vous reversez votre résultat au travers de France Gallo, du Trot, non?
Non, on n'est jamais handicapé par sa raison d'être. Moi, je suis là pour faire vivre toute une filière hippique et c'est juste pour ça que j'existe. Donc non, c'est pas un handicap. Et en plus... Plus je les fais vivre, plus il y a de partants dans les courses, plus les courses sont belles, avec des chevaux de haut niveau, et plus mon jeu est intéressant. Donc on a vraiment un destin lié. Donc non, c'est pas un handicap. Après ça, ce qu'il faut, c'est qu'on soit comme une entreprise normale, avec une gouvernance focalisée sur la compétition sur notre marché.
Vous êtes là combien de temps encore? Parce que là, vous êtes par intérim, vous avez pris la suite de Monsieur Hurstel, donc qui est parti dans une SS2I, hein, Steria, non,
Soprasteria.
Soprasteria, oui, c'est ça exactement. Vous êtes là combien de temps? Vous êtes candidat à rester comme PDG?
Il y a une règle simple, c'est que les salariés au PMU n'ont pas le droit de prendre de paris. Bon. Même sur ça, je n'ai pas le droit de prendre de paris.
Bertrand Baudichon, Média Plus.
Moi, ce que je trouve extrêmement extrêmement intéressant dans ce qui est en train de se passer là, c'est que on est en train de se rendre compte finalement, et la régulation est en train de se rendre compte que si je prends l'exemple du poker. en ligne, qui finalement est pas un franc succès jusqu'à présent, parce qu'on tourne toujours avec le même million de joueurs, alors qu'à l'époque les grandes marques espéraient pouvoir attirer plusieurs dizaines de millions de gens. Là, ce qui est en train de se passer en termes de régulation, et c'est vraiment à l'étude, c'est l'ouverture à d'autres pays européens. Comme ça, je vais pouvoir jouer avec des Espagnols. Ça s'est déjà fait potentiellement avec des Italiens, ce qui va amener plus de liquidités dans un marché qui en avait bien besoin, et donc qui va m'amener des gains, des espérances de gains plus intéressantes, parce que des jackpots plus intéressants, des tournois avec plus de joueurs dedans, etc. Donc ce qui est en train de se passer aussi, c'est que grâce à Internet, la France est en train de se rendre compte qu'il y a des, il y a plus trop de frontières.
Il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer? Qu'est-ce qu'on peut encore importer en France pour aller doper, faire en sorte que les Français joue plus, joue mieux, Emmanuel Le Chypre. Hein.
Bah, on l'a vu, il y a, enfin, je veux dire, la digitalisation offre des perspectives infinies. La seule limite, c'est l'imagination. Mais comme dans tous les secteurs, vous avez des frontières de plus en plus floues entre les producteurs, les consommateurs, et que tout le monde devient un peu producteur et un peu consommateur. On se dit, par exemple, pourquoi ne pas lancer soi-même une idée de pari. C'est-à-dire que moi, je suis devant un match de foot, j'ai envie de dire, tiens, tenez, on va parier sur le joueur qui va marquer le premier... Enfin, quelque chose qui voilà, qui peut paraître saugrenu ou très personnel. Ouais. Et puis, paf, vous pouvez être rejoint par d'autres gens qui vous disent, ah bah oui, tiens, je prends le pari. Et puis avoir comme ça une liste de paris un peu... pourquoi pas, ça fait partie des choses qui...
Comment est-ce qu'on peut innover comme ça pour tirer le gros lot, pour innover, pour continuer à inventer? Bertrand Bodichon, allez, un petit tour de table chacun. Bertrand Bodichon.
Bah, moi, égoïstement, en termes publicitaires, je trouve que le marché du pari sportif, c'est certainement le marché qui peut le plus tirer partie de l'évolution de l'avenir de la technologie, avec la télévision adressable, avec la télévision en temps réel, avec la possibilité d'adresser un message différent en fonction du moment. Donc on peut afficher le score, d'ailleurs c'est largement fait, on peut afficher le type de pari qui intéresse directement la personne. Ça, on va pouvoir le faire dans quelques mois, j'espère, on va pouvoir afficher le match qui intéresse le foyer.
On pourra suivre les paris des autres aussi.
On pourra suivre les paris des autres, etc. Et je trouve que c'est en termes publicitaires, c'est un marché où les acteurs ont déjà aujourd'hui pris de l'avance par rapport aux annonceurs traditionnels sur les possibilités de faire du temps réel avec la télé.
Tout juste. Frédéric Sibotel, Vincent Chaudel.
Je pense que les compétitions de jeux sur mobile, hein, tout ça, c'est vrai qu'en France, allez, on dresse notre petit cocorico, on a d'excellents développeurs, on n'arrête pas de le dire. Bah justement, faut peut-être profiter de cette manne de développeurs. Alors, on a du mal à les trouver, mais en tout cas, on les forme. On a des bons informaticiens, des bons développeurs, donc faire des jeux. Et puis on voit ce que fait l'AFD. Ouvre des jeux en ligne, des jeux de combat en ligne, tout ce qui est autour de l'e-sport. Et là, il y a un vrai potentiel. Et on peut aller voir sur le site les parties. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses.
Vincent Chaudel. S'il faut apporter une idée nouvelle, tout ce qui est travail autour des communautés, puisqu'on est dans des générations avec le digital qui réagissent et qui interagissent beaucoup en communauté.
Et ça sera l'année des gros paris dans le jeu 2018, Alain Resplandy Bernard.
Oui, tout à fait. Et pour ça, nous, on a, en plus de bons développeurs, un écosystème de start-up. C'est ce qu'on fait à Vivatech. Nous, ça fait on va faire notre troisième challenge à Vivatech cette année. Et là, les start-up travaillent sur les données, comme on l'a dit, mais travaillent aussi sur ce jeu social, ces idées de comment on recrée la communauté du bar en digital. Ouais. C'est le jeu social, c'est vraiment le thème.
Il n'y a pas de championnat de parieurs, par exemple?
Si, il y en a. Il y en a sur nos sites.
Bien, Alain Resplandy Bernard, PDG par intérim du PMU, on verra pour la suite. Bien entendu, merci d'être venu ce soir dans les décodeurs de l'écho. Bertrand Bodichon, qui dirige la filiale française du groupe de médias Média Plus, un groupe allemand que vous avez mis en place en France. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Vincent Chaudel, expert sport associé du cabinet de conseil aux entreprises Westone. Et puis Frédéric Sibotel, l'homme de la tech, l'homme du digital ici à BFM Business. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On va laisser passer le mercredi soir avec Stéphane Soumier, avec Plus Grand Plus Fort. Et puis on reviendra juste après avec les décodeurs de l'écho, bien sûr.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.